désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Les pierres vivantes dont il est question sont des pierres qui sont fabriquées de la même manière. Elles ont toutes la même nature. Si vous regardez nos constructions ici dans le nord, vous avez des briques, vous en prenez une, vous en prenez une autre, vous pouvez les comparer, vous pouvez regarder. Si vous regardez très finement, vous allez voir qu'elles sont très différentes. Il n'y en aura pas deux qui seront identiques. Mais si vous analysez la nature des briques, eh bien vous verrez que c'est exactement la même chose. Chimiquement, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre l'une et l'autre. Et nous devenons pareils si nous sommes nourris par les mêmes éléments, par les mêmes aliments. N'est-ce pas? On voit facilement les gens qui mangent beaucoup de frites et qui boivent beaucoup de bière. Ils se ressemblent tous. Ils ont un gros ventre. Et lorsqu'on boit beaucoup de bière, on a un gros ventre qui a une forme tout à fait particulière. C'est vrai. Et lorsqu'on mange beaucoup de frites, je ne sais pas si ça a une forme particulière. Alors, il y a des gens qui ne mangent pas de viande. Alors, ils ont aussi des formes tout à fait particulières. Non, ils ne ressemblent pas à des asperges. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, voilà. En fait, ce qu'on mange, ce qu'on ingère, eh bien, ça nous façonne. Ça fait de nous des hommes et des femmes qui avons une... qui ressemblons à quelque chose. Je ne vous dis pas ce que je mange, moi je me cache. Voilà. Mais ces briques ont toutes la même nature, n'est-ce pas? Dans certaines constructions, certaines peuvent être plus grosses que d'autres. Hein, ça dépend des endroits, ça dépend de la façon dont on construit. Certaines peuvent être plus grosses, puis d'autres plus petites, lorsqu'on construit des murets, par exemple, et qu'on veut faire des effets. Voilà. Mais la nature des briques, c'est exactement la même. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont Pierre dit les choses. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Approchez-vous, en fait, de la pierre vivante, c'est-à-dire de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et c'est, si on s'arrête là, on dirait presque qu'il nous parle à nous, en fait. Et en fait, il nous parle à nous, puisqu'il continue. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Venez migrer vers cette pierre vivante. Venez de partout où vous êtes, venez vous coller à cette pierre vivante, cette pierre de l'angle. Et je trouve cette image assez merveilleuse. De se rassembler autour de lui parce que vous êtes de la même nature. Vous êtes les mêmes, vous êtes pareils. Et non seulement ça, mais en vous rapprochant, vous allez être de plus en plus comme lui. En fait, je crois que Pierre est en train de dire, mais devenez donc des experts de la connaissance de Dieu. Et c'est bien de cela que l'Église a besoin. N'a pas besoin de gens très intelligents qui comprennent tout. Enfin, c'est important aussi, je ne dis pas ça. Mais des experts de la connaissance de Dieu, c'est autre chose que des experts de la connaissance de la lettre. N'est-ce pas? Il y avait beaucoup d'experts de la connaissance de la lettre à l'époque, et Jésus se débattaient avec eux, mais des experts de la connaissance de Dieu. Des gens qui savent se rapprocher de Dieu et vivre en sa présence pour ensuite exprimer le cœur de Dieu, l'amour, la bonté, la gentillesse. Quel mot désuet aujourd'hui, la gentillesse. Et je crois qu'on a tous besoin de se rapprocher encore plus de Dieu, même ceux qui le connaissent bien, même ceux qui ont une vraie relation avec lui. Nous avons besoin de toujours tendre à être plus près pour que ce qu'il est infuse en nous et fasse que lorsque nous sommes à un endroit ou à un autre, avec une personne ou en groupe, nous ayons les bonnes attitudes, que nous soyons de ceux qui attirent alors eux aussi les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je crois que c'est le rôle de l'Église de Christ que de façonner, que d'amener les hommes et les femmes à se rapprocher de Dieu encore plus. Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que vous êtes arrivé, vous êtes au taquet, vous êtes au maximum ? Moi, de loin pas. Moi, je sais qu'il y a encore de grandes choses à découvrir en Dieu. Et au fur et à mesure que je me rapproche de Dieu, c'est tout le problème de l'homme qui disparaît. Et quand je parle du problème de l'homme, c'est mes limitations, mes peurs, mes craintes, ma timidité, tout le reste disparaît au plus je me rapproche de Dieu. Mes interrogations sur l'origine du monde disparaissent alors que je me rapproche de Dieu. Vous avez des questions ? Rapprochez-vous de Dieu. Il y a des questions, on oublie même de quelles questions il s'agissait lorsqu'on s'est rapproché de Dieu. Les briques servent toutes à la construction de la maison spirituelle de Dieu, dont Christ est la pierre vivante, angulaire. Dans Romains 12, l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » N'est-ce pas ? C'est comme cela, en nous rapprochant de Dieu, en apprenant jour après jour à le connaître plus, que nous allons vivre l'expression de sa volonté. On est toujours en train de chercher la volonté de Dieu, ça a été pour moi longtemps une façon de faire. Jusqu'au jour où j'ai compris que être en Dieu, c'était vivre dans sa volonté. C'est que ce qui se passe dans ma vie, à moins que je ne prenne des décisions contraires, où je sais parfaitement que je suis hors du chemin, eh bien je suis dans la volonté de Dieu. Sauf que des briques comme celle-ci, des hommes et des femmes comme celle-ci, sont impropres aux constructions mondaines. N'est-ce pas ? Ces experts dans la volonté de Dieu ou de la connaissance de Dieu, ces hommes et ces femmes qui se rapprochent de Dieu, au plus ils se rapprochent de Dieu, au plus ils deviennent étrangers au monde. Et c'est pour cela qu'ils sont rejetés. Ce n'est pas parce que on a une position telle ou telle. Ce n'est pas parce que on croit en Christ. Ce n'est pas ça. Mais c'est lorsque l'on se rapproche et qu'on vit la vie de Christ, que l'on devient étrange au monde. Étrange, étranger, c'est pareil. Étrange. Et les gens peuvent nous trouver étranges. Ce qui est dramatique, c'est lorsque, finalement, dans l'Église de Christ, on devient aussi étrange. N'est-ce pas? C'est là où on arrive à mesurer l'état spirituel de l'Église. Lorsque, je le dis souvent, on rencontre d'autres chrétiens, de quoi parle-t-on? Il y a certains milieux, on rencontre d'autres chrétiens, on parle de tout sauf de Christ. On parle de tout sauf de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Alors ça, c'est étrange pour moi. Très étrange. Donc les briques que nous sommes ne sont pas adéquates pour les constructions mondaines. Elles ne passent pas la norme ISO. Je ne sais plus quelle norme on a actuellement, la norme 9100, non c'est 12000 je crois maintenant. Les normes ISO, ce sont des normes de fabrication, on peut mettre un tampon, c'est conforme, voilà. Mais on n'est pas conforme pour le monde. On n'est pas conforme pour le monde, on ne passe pas les normes ISO. Et de ce fait, on est rejeté. Alors vous avez des constructions, et un maçon va faire cela, n'est-ce pas? Il va déballer ses briques et il va les regarder. Il va, tout ce qui est conforme, il va les prendre. Celles qui sont cassées, il va les rejeter. Celles qui ne correspondent pas, qui ne sont pas conformes, qui manquent des bouts, allez, rejeter. Et donc, au fur et à mesure que la construction se fait, eh bien, il va y avoir d'un côté un édifice et de l'autre côté un tas. Un tas avec les briques rejetées. Et frères et sœurs, une autre bonne nouvelle. Vous faites partie de ce tas. Donc nous pouvons nous approcher de Christ, et ça c'est le point 2, parce qu'il est la pierre vivante, et que tous ceux qui l'ont reçu sont nés de la parole vivante. Jésus, en Jésus est, on l'a dit ce matin, je sais pas, peut-être Emmanuel est notre ami. Hein, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que le Père. Tout ce que j'ai appris du Père. Et en tant qu'ami de Christ, eh bien, c'est merveilleux parce que sur ce tas, il y a aussi Christ. Moi, je trouve ça fantastique. On a d'un côté un monde qui se construit selon ses normes. Et à côté de cela, il y a là complètement incohérent pour le monde. Un tas de briques qui, aux yeux du monde, n'a aucun intérêt, n'a aucun sens, n'est pas en mesure d'être une édification, d'être mis ensemble pour édifier quelque chose. Et pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit. C'est bien de ce tas inutile que va surgir un édifice pour Dieu. Et c'est vrai à titre individuel. Regardons-nous chacun où nous sommes, qui nous sommes, d'où nous venons. Si il suffit de penser à chacun d'entre nous peut-être, est-ce qu'on a besoin d'expliquer vraiment ce que c'est que la grâce quand on se regarde, quand on regarde son parcours et que l'on réalise ce que Dieu a fait de nous et dans nous? Est-ce qu'on a besoin de faire une explication de la grâce? Ou est-ce que simplement le fait de repenser à l'œuvre de Dieu en nous nous fait réaliser cette grâce énorme, ce don immérité que Dieu nous a fait de se tourner vers nous, de nous regarder avec amour, de quelque part nous pointer du doigt et dire « Viens, viens, je t'ai choisi, viens, viens toi, je t'aime, viens, je veux faire quelque chose avec toi. Mais non Seigneur, j'en suis pas digne, mais viens. » Est-ce qu'on a reconnu ça de la part de notre Dieu? Ou est-ce qu'on ne l'a pas reconnu? Est-ce que ce n'est pas ça notre expérience? Alors, si ce n'est pas ça votre expérience, eh bien ça peut le devenir. Parce que ce matin encore, Christ se tourne vers chacun, ceux qui ont besoin de savoir qu'ils sont aimés, et il tend la main pour dire « Viens, 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 je veux que tu viennes. Je veux pas que tu restes loin. Je veux pas que tu restes malade. Je veux pas que tu restes avec ces pensées qui t'obsèdent sans arrêt. Je veux changer, bouleverser ta vie, révolutionner ta vie. Je ne veux plus t'appeler serviteur. Je veux pas que ta foi ce soit une foi rigide qui te fait mal. Je veux que tu comprennes ce bain d'amour, cette norme spirituelle qui est la mienne. Je veux que tu la comprennes et que tu sortes de tes prisons. Vous êtes mes amis. Et il veut que nous soyons son ami. Lié à ce texte, il y a une parabole dans Matthieu 21. C'est la parabole des vignerons. On va la lire. À partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons le traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier ». Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, vous sera donné, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Ils seront jetés, ils jetteront, en fait ils ont jeté les corps en dehors de la vigne, n'est-ce pas? Ils se sont appropriés la vigne, et tous ceux qui venaient pour récupérer le fruit ont été tués, y compris le Fils, et jetés hors de la vigne. On a la même idée que les pierres qui sont rejetées. Elles sont rejetées hors du champ de construction humain. Il y a un aspect intéressant avec ces briques qui sont de la même nature. Elles sont de la même nature. Mais elles sont l'une sous l'autre. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jésus nous fait la grâce de son amitié. Et nous sommes de la même nature que lui. Il est lui la pierre spirituelle de l'angle. Mais il attend de son Église qu'elle s'édifie. Il attend que hommes et femmes, à titre individuel, grandissent. Et dans l'Église, il n'y a pas d'édification s'il n'y a pas de soumission mutuelle. Un bâtiment ne peut se construire si une brique ne se soumet pas à une autre brique. C'est impossible. Tout le monde veut être au même niveau, alors je ne sais pas quel genre de bâtiment on va avoir, n'est-ce pas? On va poser des briques côte à côte, on va peut-être faire le tour de la terre avec, mais on n'aura pas un bâtiment, on n'aura pas un édifice. Et le principe de l'édification selon Dieu, c'est que ces pierres vivantes, rejetées par le monde, se mettent ensemble, s'édifient elles-mêmes. Et l'édification se fait à cette condition-là. Que l'un se soumette, l'un de même nature se soumette à l'autre de même nature. Et celui qui tient le tout, c'est celui qui est à l'angle. Celui qui est la pierre maîtresse. C'est pas une façon. C'est pas évident, en fait, la soumission mutuelle. On en parle facilement, mais dans les faits, c'est pas évident. Même dans l'Église. On a nos caractères, nos connaissances, nos envies, nos idées, nos projets, nos compréhensions de la parole de Dieu. Et ça n'est pas facile, toujours, de se soumettre à l'autre. Parce que lorsqu'on a l'autre au-dessus, selon ce qu'il y a là-dedans, on peut se sentir mal. On peut se sentir agressé. On peut se sentir écrasé même. Alors, Je ne dis pas que parfois ce n'est pas justifié. Il y a des situations qui sont très difficiles. Il y a des situations qui sont injustes. Et dans ces cas, il y a des fonctionnements à connaître et à mettre en pratique. Mais il y a aussi ce que dit l'apôtre Pierre en bas, et que je vais relire. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Évidemment, lorsque je prêche, j'ai toujours à l'esprit l'Église persécutée. Nous vivons ici dans des situations qui sont confortables. Et on peut me raconter ce qu'on veut sur nos difficultés quotidiennes. Nous avons nos difficultés quotidiennes. Eh bien, ils ont exactement les mêmes, mais en plus, ils doivent connaître la persécution, la discrimination, les viols, les vols, toutes ces choses-là. Et l'attente de Dieu pour eux est la même que pour nous. Elle n'est pas supérieure pour eux. Elle est de même nature. Ils doivent continuer à aimer ceux qui les persécutent. Donc on a affaire à quelque chose d'impossible, n'est-ce pas ? Ça n'est pas possible d'aimer celui qui a violé votre fille. Ça n'est pas possible d'aimer ceux qui vous volent sans arrêt, ceux qui vous passent devant le nez, alors que vous êtes légitimement prioritaire. Ça n'est pas possible. À moins que nous devenions des experts de la connaissance de Dieu. À moins que nous soyons si proches de Christ que nous avons en nous cette capacité, alors que nous sommes crucifiés, alors que nous sommes volés injustement, alors que on nous pompe tout ce qu'on nous pompe, on puisse encore avoir en conscience le fait que nous-mêmes, nous avons été de ceux qui ont dit à Jésus, alors qu'il était sur la croix, « Mais si tu es le Fils de Dieu, tu n'as qu'à descendre. » Nous avons à l'esprit que nous sommes nous-mêmes ceux qui ont marché contre Christ, qui ont parlé contre Christ, qui ont insulté Christ et qui finalement l'ont tué. Et lui a simplement dit au Père, « Père, surtout, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette parole de Christ, elle n'est pas anodine, frères et sœurs. Lorsque Christ l'a dit, et il fallait qu'il le dise, parce que ces paroles allaient avec l'action. C'est-à-dire que, Père, pardonne-leur, je suis en train de mourir pour cela. Et nous, dans nos relations avec les autres, avec ceux qui nous maltraitent, quelles sont nos attitudes ? Est-ce qu'à un moment, nous sommes submergés et nous disons « Ah, j'ai tout fait maintenant, j'ai plus la force maintenant de pardonner. J'ai pardonné trop longtemps. Pendant trop longtemps, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pardonner, pour oublier, pour j'ai trouvé des solutions, des astuces pour que ça passe. Mais maintenant, c'est trop, je ne peux plus. » Alors, c'est là que Dieu vous attend. Parce que tant que vous pouviez le faire vous-même, même si vous disiez « Oh, Seigneur, aide-moi, je vais faire ça. » Tant que vous pouviez le faire vous-même, vous n'aviez pas besoin de faire appel à Dieu réellement. Mais le jour où vous savez que ça n'est plus en votre pouvoir, le jour où ça devient si difficile que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de mourir, pour que ça s'arrête, alors Dieu vous attend là, à ce point précis. Et c'est là qu'il vous dit, c'est dans ma faiblesse, dans ta faiblesse, que ma puissance s'accomplit. Frères et sœurs, je prie pour que chacun d'entre nous, nous arrivions à ce point précis où nous avons tout lâché. Nous avons tout laissé. Nous avons dit, là, je ne peux pas. Là, je n'arrive pas. Seigneur, si ce n'est pas toi qui le fais, alors c'est perdu. Dieu nous attend là. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Les chrétiens ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, on est appelé à vivre ensemble. On est appelé à vivre comme un corps vivant qui s'édifie lui-même. L'apôtre Paul parle de « exhortez-vous réciproquement » dans 1 Thessaloniciens 5:11 « et édifiez-vous les uns les autres » comme en réalité vous le faites. Parce qu'une maison spirituelle qui n'est pas édifiée ne peut pas non plus donner des sacrifices spirituels. C'est ce qui est dit ensuite. Édifiez-vous pour former à une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc c'est une citation de Ésaïe 28, verset 16. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Alors, confus, cette traduction-là est un peu difficile à comprendre. Ne sera point tenté de fuir, d'abandonner. Une autre façon de traduire ce passage. Pourquoi des sacrifices spirituels? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous faire grandir comme cela, nous faire croître? Est-ce que c'est juste pour nous? Est-ce que c'est juste pour qu'on se sente mieux dans notre vie? Alors, je ne crois pas, la réponse, elle est plus bas, et c'est des versets qu'on n'a pas lus, mais je vais juste le dire rapidement. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. C'est là une des raisons. C'est parce que lorsque l'on est édifié en Christ, eh bien Christ est glorifié. Et son honneur se montre à nous de cette façon-là. Mais il y a une autre raison. C'est que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, si elle est devenue pour nous la principale, celle de l'angle, il est dit qu'au verset 8, elle est devenue une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ces pierres vivantes qui s'édifient entre elles et qui prouvent au monde par l'amour qui les unit, normalement, qui prouve au monde cela, eh bien c'est un rocher de scandale. C'est un mur contre lequel il se heurte. C'est aussi pour cela que Dieu veut construire cette édification spirituelle qu'est l'Église. C'est aussi pour cela que Dieu veut nous construire chacun, pour que nous ayons cet impact sur le monde. Évidemment, souffrir injustement, supporter les brimades et la difficulté de la vie nécessite de la persévérance, n'est-ce pas ? La persévérance, c'est aussi le caractère de Christ qui nous la donne. En ce qui concerne les témoignages dans l'Église persécutée, lorsqu'on a interrogé un chrétien dans un endroit un peu chaud sur des récits de délivrance ou sur des récits de persévérance, il a répondu la chose suivante. Pour un récit de délivrance, il y en a, n'est-ce pas ? Dieu agit, intervient miraculeusement, de façon merveilleuse pour certaines personnes. Mais il dit la chose suivante. Pour un récit de délivrance, il y a 10 récits de persévérance. Et très souvent, ça se termine par la mort. Dans Matthieu 13, 13, il est dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça, c'est le verset clé. Il y avait, durant la révolution culturelle, une Chinoise nommée Mabel, ou Mabel, je ne sais pas comment on dit. Elle était médecin à Pékin. Et elle habitait une grande maison bourgeoise. Évidemment, ça, c'était pas bien vu à l'époque. Donc, ils sont venus, ils l'ont sorti de sa maison, ils ont réquisitionné sa maison et ils lui ont laissé sa cabane de jardin pour habiter. Ils lui ont retiré son titre de médecin aussi et ils l'ont envoyé dans une équipe de travail qui est... Enfin, il faisait des travaux sur les routes, il remuait des pierres, des cailloux, du sable, des choses comme ça. Les gardes révolutionnaires de l'époque qui s'étaient occupés d'elle avaient à peine 16 ans. Donc elle était une médecin ouvertement chrétienne. Et ces jeunes, on dirait des jeunes blancs-becs aujourd'hui, s'étaient mis en tête de s'acharner sur elle. Et donc, il la battait. Il la promenait dans les rues en l'habillant d'une pancarte sur laquelle étaient inscrits tous ses crimes. Et devant sa maison, ils avaient dressé un grand panneau qui l'accusait d'être une paria de la société, une intouchable, quelqu'un qu'on devait éviter absolument. Parce qu'elle distribuait des Bibles à la place du petit livre rouge de Mao. Donc elle était rejetée par ses voisins, brimée, battue. Et un soir, après des années de ce régime-là, elle est rentrée chez elle, dans sa cabane. Et elle a dit à Dieu, ça suffit maintenant. Ça suffit. C'est assez. J'ai dépassé la soixantaine, j'ai supporté autant que j'ai pu, et sans doute que ça ne te fera rien que je vienne te rencontrer au ciel un peu plus tôt que ce qui était prévu. Et elle a pris un gros hachoir à viande, et elle avait entrepris de se trancher la main pour se vider de son sang. Et au moment où elle allait abattre le hachoir, eh bien, elle n'a pas pu le faire. Physiquement, elle a été empêchée de le faire. En même temps qu'elle faisait cela, elle priait, elle disait « Seigneur, si j'ai tort de faire cela, aide-moi. » Et c'est ce que Dieu a fait. Et alors, elle s'est mise sur le côté, elle a pleuré beaucoup. Et les brimades ont continué pendant 8 ans encore. Et elle dit la chose suivante. « Dieu m'a donné la force de persévérer, mais je n'ai jamais su comment. Et ce n'est que des années plus tard qu'elle a compris, en fait, pourquoi tout cela. » Parce qu'après la mort de Mao, donc là, tout ça a disparu, les gardes rouges ont disparu, et à son égard aussi, donc la situation s'est calmée. Et très rapidement, il y a eu devant sa maison une multitude de personnes qui voulaient absolument la voir. Ils étaient pour la plupart des membres haut placés du Parti communiste qui venaient lui demander des Bibles. Lorsqu'elle leur demandait « Mais pourquoi ils venaient la voir, elle ?» On lui répondait que c'était à cause du grand panneau devant sa maison pendant la Révolution culturelle qui disait ses crimes et notamment où il était marqué qu'elle distribuait des Bibles. Et donc, grâce à la persévérance de cette femme, eh bien, la Bible a pu entrer en Chine, enfin être distribuée en Chine, grâce à cette femme. C'était la première source d'entrée et de distribution de la Bible immédiatement après la Révolution culturelle. Et donc, parce qu'elle avait persévéré, elle fut donc la première intermédiaire pour la distribution clandestine de la Bible dans la capitale chinoise. Et lorsqu'elle se rappelle de ces moments, elle dit « Je mentirais si je disais avoir vu Jésus ou même avoir senti sa présence à chaque instant. J'ai juste reçu la force nécessaire pour continuer. Et cela m'a suffi. » On est dans un monde qui nous apprend que nous devons être à l'écoute de nos souffrances, que nous devons en prendre considération. Et je crois que dans certains cas, il faut le faire. Et il faut surtout aller auprès de gens qui peuvent vous parler spirituellement de ces problèmes-là. Mais lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on a confié sa vie entre les mains de Dieu, qu'on s'attache à vivre auprès de son trône et de recevoir en nous la réalité, le matériel génétique de Christ, il y a une tentation que Satan va mettre en place qui est justement celle de la grande écoute de notre souffrance. Et il va souhaiter que nous la nommions, pour mieux la posséder. Faites cela. Si vous voulez vraiment souffrir, faites cela. Dès que la souffrance se pointe, regardez-la bien. Caressez-la. Dites-lui que vous avez conscience qu'elle existe. Dites-lui que vous avez des projets pour elle dans votre vie. Que vous allez vous construire avec elle. Faites cela. Vous n'arriverez jamais plus à vous en débarrasser. Mais si lorsqu'elle se pointe, vous tournez vers Dieu et vous ignorez cette tentation parce qu'il s'agit d'une tentation. de la souffrance, alors vous allez expérimenter la délivrance. Je parle d'expérience. Voilà. Je suis conscient que tout ça était un peu confus parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais les choses importantes ont été dites. L'édification de ce tas de pierres rejetées, c'est ça que Dieu attend. C'est de ce tas de pierres faibles, sans force, sans capacité, inconnues du monde, rejetées par le monde, que la puissance de Dieu, c'est de là que la puissance de Dieu va sortir. Et si aujourd'hui vous vous sentez faible et sans force, et si vous savez que vous êtes en règle avec Dieu, et si vous savez que votre cœur vous envoie sans arrêt vers Dieu, si vous savez que dans votre esprit, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de lui plaire, eh bien, simplement persévérez. Persévérez en cela. Christ est votre ami. Il n'est pas votre juge. Vous n'êtes même pas ses serviteurs. Vous êtes ses amis. Évidemment, en tant qu'ami, nous avons envie de le servir. Mais ce n'est pas comme ça qu'il nous voit. Il nous voit en tant qu'ami. Et voilà, je vais m'arrêter là, mais aimez-le. Aimez-le comme vous n'avez jamais aimé. Si vous n'arrivez pas à aimer quelqu'un, si vous n'arrivez pas à aimer quelqu'un que vous savez que vous devez aimer, alors aimez Christ. Parce que c'est en aimant plus Christ que vous allez pouvoir aimer quelqu'un que vous n'aimeriez pas normalement. Et il n'y a pas d'autre alternative. Vous pouvez aller voir tous les psys du monde. Ils vous diront, si vous n'arrivez pas à l'aimer, ben vous partez, vous divorcez. Si Dieu avait dit à Christ, si tu n'arrives pas à les aimer, tu n'as qu'à divorcer. Où est-ce que nous serions aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en adviendrait de la terre aujourd'hui? Divorcer ou se séparer, n'est-ce pas? Vous comprenez bien. Lorsqu'il s'agit d'amis ou de collègues de travail, peut-être. Voilà, je vais m'arrêter là. Seigneur notre Dieu, oh, c'est tellement merveilleux que tu sois venu. Et Seigneur, cet enseignement que tu nous laisses est si riche. Mais Seigneur, nous voulons recevoir cet enseignement en nous et nous laisser infuser par toi, par ton esprit. Et nous désirons plus qu'une chose, Seigneur, c'est que nos cœurs puissent être entièrement acquis à ta cause. Que tu nous apprennes, Seigneur, à persévérer. Seigneur, que nous soyons de ceux qui réalisent au plus tôt qu'ils ne peuvent vivre par toi que s'ils sont vides d'eux-mêmes. Seigneur, apprends-nous ces choses. Nous en avons besoin plus que tout. Seigneur, nous avons besoin de nous rapprocher de ton trône et pouvoir être si près de toi, et toi si près de nous, et finalement toi en nous et nous en toi, pour que la volonté de Dieu et notre volonté ne soit qu'une seule et unique chose. Seigneur, beaucoup de voix aimeraient nous dire que ces choses-là sont impossibles. Seigneur, nous voulons repousser ces voix. Et nous voulons croire ta parole. Nous voulons croire que tu es la parole vivante, que nous avons été engendrés par une semence incorruptible et permanente, que notre vie éternelle commence aujourd'hui même. et non pas à notre mort. Et que c'est alors que nous avons commencé notre vie éternelle ici, que nous pouvons vivre en toi ici déjà. Afin, lorsque nous te verrons face à face, nous puissions nous rendre compte que nous sommes de la même nature, que nous ne sommes pas différents de toi, que tu n'es pas différent de nous, et que l'édifice qui a été construit l'a été par le Fils du Dieu vivant lui-même. Dans le nom de Jésus. Amen.